c'est parti. Donc Fred est là, vous l'avez entendu. Julien Laurence nous rejoint. Salut Julien.
Salut à tous.
Salut Julien.
Et quand est-ce que tu rentres en France, toi, qu'on te voit un peu là?
Bientôt. J'ai rendez-vous avec les chefs la semaine prochaine, je pense. Ouh, donc je serai en plateau la semaine prochaine.
Le gratin augmente, le gars. Ça sent.
Non, j'ai pensé à un truc là sur Jenny. On n'a jamais parlé de tes vacances. J'ai jamais eu l'occasion de juger tes vacances.
Brighton.
J'aimerais bien savoir parce que là, j'en ai deux devant moi là qui ont foiré leur été. J'aimerais savoir si toi t'as pas raté.
Je suis régalé, moi. Attends.
Vous avez. Alors les deux qui sont devant moi ont raté leur été. Il y en a un qui va à Punta Cana. Et en plus, il va au mois d'août, c'est dire. Et l'autre, il va en Grèce, il va à Athènes pendant une semaine. Une semaine à Athènes, sans aller mettre le pied sur une île.
Quel régal.
C'est dire.
Si.
Maintenant à toi. T'étais où au mois d'août?
Alors, je suis parti fin juillet déjà, ouais. Après la Coupe du Monde.
Déjà, c'est mieux.
À l'île de Ré. À l'île de Ré.
Voilà, ah oui, là, d'accord. Je ne savais pas que Julien Laurent c'était. Ah, d'accord.
Il est propriétaire là-bas.
Ah, je savais pas qu'il était espadrille et pull roulé, noué sur le cou, sur les épaules.
Un jeu spiniste?
Parisien, tu sais.
Ah, d'accord. Je ne savais pas. Très bien.
Okay. Alors, Julien.
C'est encore autre chose.
Simone Rovera également est parmi nous. Alors, Simone est en Italie, ce soir. Parce que lui, il a fait le sens inverse de Fred.
Simone ne peut jamais se tromper puisqu'il va en Italie en vacances. Donc,
salut, Simone.
Lui, c'est plutôt genre lac de Garde, lac de Côme, tout ça.
Ciao, bonsoir, bonsoir. Oui, pour moi, c'est le lac de Garde.
Bah, c'est normal,
comme
c'est
d'habitude.
La classe.
Ouais.
Ciao, Simone.
Salut, Simone. Ah, il pleut parfois quand même là-bas. Hein.
Oui, mais il va pas quand il pleut.
Ciao, Fred, tu me manques.
Mais moi, je pensais te voir ce soir.
Ouais, enfin, t'es parti le seul jour où il vient. Quoi.
Ouais, ouais, quand même. Non, t'es là tous les lundis, le soir, t'es là, t'étais pas là.
Attention, jingle Hermel, il veut nous parler du Barça.
Salut Zizou. Merci Zizou.
Exceptionnel, Miguel.
Ah mais c'était il y a une semaine tout juste.
C'était la conf de rentrée,
pas de réintroduction de Zidane à Madrid.
Donc tu voulais parler du Barça, de la Ligue des Champions.
Oui, parce qu'en fait, il s'est passé. C'était le week-end, c'était de la Liga, mais je pense que ce qui s'est passé hier soir à Séville, qui était quelque chose d'exceptionnel avec cette victoire des Catalans 4-1 avec un Messi stratosphérique. C'est-à-dire que
avec standing ovation à Séville.
Voilà. Et moi, alors, sur
le troisième but, ouais, voilà, il est exceptionnel.
Tu veux dire sur ce qu'on appelle une vaseline en Espagne, le petit lobe, on appelle ça une vaseline, un beau lobe. En fait,
on appelle ça une vaseline.
Une vaseline, vaselina.
Mais pourquoi une vaseline?
Bah, je sais pas, parce que ça glisse tout seul. Pays des merveilles, tu sais là où tu vas en vacances. Ah non, ça c'est Punta Cana. Et donc, ce qui s'est passé ces derniers jours, je pense qu'il y a comme un alignement des planètes pour que le Barça soit champion d'Europe.
Pourquoi ça t'excite si vite?
Mais je vais t'expliquer pourquoi. Parce que tout ça, j'ai réfléchi et machin. Voilà. Parce que hier, le Barça a gagné la Liga. Voilà. Définitivement, 10 points d'avance sur l'Atlético, puisque l'Atlético a perdu à Bilbao, que le Barça a gagné sur une pelouse difficile.
Et ça, c'est une sacrée contre-performance. L'Atlético est en train de bien lâcher, quand même.
Voilà. Donc, 10 points, ça veut dire, tu peux faire tourner. Tu peux faire tourner avant les matchs importants de Ligue des Champions. Ça, c'est une réalité, parce que, Valverde, normalement, oh non, attention, ils gagnent à Madrid, ils ont 12 points d'avance sur le Real, il fait, oh là là, la Liga, non, c'est trop tôt. Valverde, ce week-end, a dit, on a fait un grand pas, c'est que dans leur tête, il y a quelque chose qui s'est
passé. Et malgré tout, il continue à pas être totalement apprécié, lui.
Non, parce que le jeu n'est pas assez bien, le jeu collectif n'est pas assez beau, d'après les puristes du Barça. Oh. Ensuite, nous avons un tirage au sort de Ligue des Champions, qui est quand même un boulevard pour le Barça. C'est-à-dire Manchester United en quart. Je pense que...
Oh, méfie-toi, Fred, on sait jamais.
On sait jamais.
Bah, ça, c'est enfin, cadeau. On sait jamais, c'est une phrase qui va avec le PSG, ça va pas avec toutes les équipes.
Ah oui, ça va pas avec le Barça.
Demi, Porto ou Liverpool. Bon, après, c'est une demi, mais on est ni sur la Juve, ni sur City. Voilà. Donc, on est en finale.
Liverpool déjà. Au taquet a le profil pour emmerder le Barça.
Oui, mais bien sûr.
Le match retour est où?
En plus, le truc aussi, sur le quart de finale, normalement, le Barça devait jouer le match aller chez lui, mais avec l'histoire de City qui joue chez lui, qui tire en premier, ils ont dû retourner la double confrontation. Donc, le Barça, en plus, a eu la chance de pouvoir jouer le match retour.
Et en demi, on sait déjà qui reçoit, je sais pas.
Hein. On sait déjà que c'est Liverpool ou c'est au Porto.
Porto.
Qui reçoit au retour.
Voilà. Donc, on va se retrouver aujourd'hui dans une configuration où le Barça peut gérer en Liga pour bien se préparer pour les matchs de Ligue des Champions, qui sont quand même peut-être les plus faciles pour arriver, en tout cas ça aurait pu être beaucoup plus dur pour arriver jusqu'à la finale. Et puis vous avez le petit gars qu'on voit à l'image. Je pense que ce type, j'ai compris une chose hier.
Mais si, hein, on le voit pas à la radio, mais...
En tout cas, j'ai vraiment compris cette chose hier, en regardant le match, c'est que, vous savez, il y a la méthode Simeone, avec les coronets et tout ça, allez on y va les mecs, allez, c'est tata. Et puis, il y a Messi, c'est autre chose. Messi, c'est... qu'on m'emmerde pas, qu'on me laisse profiter du football. Je suis bien, je suis tranquille, je m'amuse avec un ballon. Ce n'est pas la tension, la pression compétitive qui rend Messi comme ça. C'est le hier, c'était du pur plaisir.
C'est le plaisir, ouais.
Je pense que hier, on a l'image d'un joueur qui kiffe, comme disent les jeunes. Il est bien dans sa vie, il est content.
Mais pas que hier d'ailleurs, ça fait un petit moment.
Et ça fait un petit moment déjà. Mais hier, c'était vraiment parce qu'il a tenté des choses sublimes. Et je pense que quand Messi n'est pas préoccupé, quand Messi est heureux et profite du football comme s'il était dans la rue, bah il est imbattable. Donc
ouais,
voilà,
c'est le meilleur.
Toutes ces composantes là, la distance très large par rapport à l'Atlético, le fait d'avoir remporté la Liga, la chance au tirage au sort et l'état Messi, fait que je pense que le Barça est vraiment bien parti en Ligue des Champions.
Bon, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord, messieurs, y compris Julien et Simonet.
Déjà sans les 10 points et le turnover qui est possible à instaurer, déjà pour moi vu l'état de forme de Messi depuis un petit moment quand même maintenant, t'es obligé d'en faire un des favoris pour la Ligue des Champions.
Si. Non, mais les arguments qui vont pour le Barça, ils vont par exemple tout aussi bien à la Juve.
Avec Cristiano, oui.
Qui est championne. Qui va pouvoir faire tourner comme elle a envie de faire tourner et reposer Cristiano Ronaldo qui est en gros...
Ce qui est prévu d'ailleurs.
Voilà. Mais c'est tout.
Après la Ligue des Champions, que le Barça soit candidat,
que le Barça pense pouvoir la gagner... sur le chemin.
Oui, non mais aussi. D'accord. Ouais. Mais Liverpool, je pense, est en train...
Alors, Liverpool m'a impressionné contre le Bayern, mais le Bayern, c'est pas effectivement.
L'année dernière contre City, ils avaient été également impressionnants sur le match aller. C'est une équipe qui a le profil vraiment pour faire chier le Barça.
Ouais.
C'est le style opposé pour les faire chier.
Ouais, je suis d'accord avec Daniel sur le fait que cette équipe de Liverpool là, surtout si au moment de la demi-finale, si elle se qualifie et que le Barça aussi se qualifie, a un petit peu lâché en championnat par exemple, et que la Ligue des Champions redevient la priorité de Klopp et de ses joueurs.
Ils ont un meilleur gardien que l'année dernière.
Ils ont Virgil van Dijk qui pour moi est le meilleur défenseur du monde malgré la petite mésentente.
Mais moi je suis d'accord, c'est une brutasse le mec. Et plus ça va, plus il devient bon quoi.
C'est pas qu'une brutasse.
Il y a une stat.
Non mais quand je le dis comme ça, c'est au sens de tout quoi. Ouais. Il est la mentalité, la dure sur l'homme, il a le pied, il a le jeu de tête, c'est un super défenseur.
Il y a cette stat incroyable juste sur Van Dijk. Personne n'a réussi à le dribbler en championnat ou en Ligue des Champions cette saison. Il y a aucun dribble contre lui. Ça veut dire qu'il y a aucun joueur aujourd'hui qu'il a affronté, qu'il a dribblé une seule fois. Et moi, j'attends vraiment de voir ce que ça va donner contre un Suarez qui, s'il est revenu à son meilleur niveau, ou même contre un Messi qui va se retrouver forcément à un moment plus ou moins dans sa zone.
Liverpool a les armes, leur triplette offensive. Franchement, c'est une équipe qui peut faire mal à la défense du Barça
depuis une petite dizaine de matchs.
L'anglais est quand même bien. Piqué fait l'une de ses meilleures saisons.
En train de parler de
Jordi Alba.
On est en train de parler de deux super équipes. C'est, à mon sens, c'est pas gagné d'avance pour le Barça contre Liverpool.
Ouais, mais il vaut mieux tomber contre Manchester puis Liverpool que contre City et Juve. Hein. Donc c'est pour ça que le tirage est quand même là aussi favorable. S'ils avaient pu choisir, je pense qu'ils auraient pris ça. Hein, donc
que le tirage Manchester United soit excellent, ok. Ah ouais. Le reste, c'est tout à voir.
Voyons pour le Barça, hein, effectivement, en tout cas, ça nous promet des
cartes. C'est vraiment du gâteau.
Tous à vivre sur RMC, d'ailleurs, de folie,
très
évidemment.
Grand spectacle. Et d'ailleurs, le public, un coup de chapeau au public du
Bétis, mais vous savez que je ne sais pas l'ordre des affiches.
Pardon, t'as dit quoi, toi?
C'est quoi l'ordre des affiches? Quelle équipe, le match qui joue en même temps qu'un autre match?
Fini d'abord sur le Bétis.
Non, le Bétis, parce que c'est l'un des stades les plus chauds d'Espagne. On sait qu'ils sont très,
la classe.
Ovation, standing ovation pour Messi.
Oui, c'est pas souvent pour un adversaire.
Ah non, c'est pas souvent, mais Messi, ça l'a touché, quoi.
Lui a dit justement que c'était la première fois que ça lui arrivait.
Ouais, comme ça,
pourtant, il a fait quelques exploits, quand même, le garçon.
Mais dites pas que le même soir de Juve Ajax, il y a Tottenham Manchester City.
Non, c'est le soir de Liverpool Porto.
De quoi?
Manchester City, Tottenham Manchester City et Liverpool Porto, ça joue les mêmes soirs.
Ah d'accord.
Okay. Et l'autre soir, t'as United Barça et Ajax Juve. Donc le Barça et la Juve jouent le même soir.
Ah chier, putain. Pourquoi ils étalent pas les matchs là? Qu'ils en fassent un à 19h, à 21h, merde, il faut qu'on puisse les voir.
Lundi, il y a la Ligue 2, d'accord? Alors, tu vas te calmer.
Et pas lundi.
Lundi, alors s'y perd, ok?
Pas lundi, je te dis. On va dire que l'after est vulgaire.
Déjà.
Je te dis que le soir, il m'a été un match à 19h, l'autre à 21h. C'est important pour qu'on voit les matchs. Les passionnés de foot ont envie de voir des quarts de finale de Ligue 1.
C'est pas ouf de se priver d'un match comme ça, ouais.
Atlético, tu veux parler?
Y a-t-il un truc à rajouter sur le Real que t'as pas encore dit?
Oui, ce week-end, des dernières petites infos.
Non mais moi je veux savoir la compo, Fred.
La compo, déjà, le truc, c'est la manière dont Zidane a remis en selle quatre joueurs. Moi, Marcelo a fait son meilleur match de la saison. C'était pas difficile.
Explique-moi.
Le mec, Marcelo, en trois jours, il a perdu 10 kilos, alors.
Voilà.
Non, mais
le mec est à la rue.
C'est un truc de fou.
Attends, laisse-moi poser la question, Fred, s'il te plaît. Solari est plutôt proche de Zidane.
Ils s'entendent bien.
Voilà.
Mais ils sont pas intimes.
Non, mais plutôt bon. Il vient des décisions. Qui, honnêtement, pour les madridistes, semblait juste. Isco faisant le con la plupart du temps et
Marcelo
tout, ne jouait pas.
Marcelo,
pas bon, machin. Reguilón joue, il n'a jamais réellement démérité.
Non.
Isco, il a disparu. Voilà. Comment Zidane arrivant, il peut se dire, putain, les mecs, je les relance direct. Mais il a fait quoi? Il a une potion magique?
Non,
il s'est passé.
Je vais te raconter un truc. Zidane est nommé le lundi soir. Le Real avait les joueurs avaient repos lundi, mardi. Donc il devait reprendre l'entraînement mercredi. Qui arrive à l'entraînement mardi alors qu'il n'y avait pas entraînement?
Marcelo
et Isco.
Ouais, mais c'est...
Mais non, mais ça veut dire
mais
quoi
c'est
ça,
même, mais, non, mais c'est quand même très bizarre.
Mais non, les mecs, si,
ça veut dire que les mecs mentalement, ils se sont remis dedans.
Voilà. T'as vu?
Alors qu'ils étaient. C'est Zidane qui leur a envoyé un SMS.
Mais sûr que non. Mais la simple présence
mais
de Zidane.
Mais quand même, c'est pas méga professionnel comme comportement.
Ah bah, ce qui est pas professionnel, c'est qu'à un moment donné, tu te sois dit, avec lui, j'arrête de jouer.
Voilà. On est d'accord.
Ouais, non, mais c'est.
Ils ont basculé dans le coin. Mais effectivement, t'as raison, il y a eu un moment
professionnel. On ne court pas de la même manière pour Solari que pour Zidane.
Mais je sais bien, mais c'est pas tellement professionnel. Il est pas payé pour jouer pour l'entraîneur. Après que t'aies une connexion, que l'entraîneur soit meilleur, qu'il ait une meilleure com, tout ce que tu veux, et Navas aussi le choix.
Ah non mais Navas, on peut pas reprocher à Zidane d'avoir mis Navas, qui lui a fait gagner 3 Ligue des
Champions. Combien vous étiez à Madrid à vouloir le mettre dehors?
Mais pas moi, je m'en fous.
Et genre on prend Thibaut Courtois, dit ouais, moi j'arrêtais pas de dire tout le temps, mais pourquoi vous battez pour un gardien? Navas, il est excellent.
Tu sais ce que veut Zidane? Zidane veut garder les deux, parce qu'il dit on peut pas gagner si on n'a pas deux gardiens de très haut niveau. Parce que l'année dernière.
Quoi, tu dis ça, tu vises l'OL?
Non, il avait Kiko Cassia.
T'as un problème avec Gorgelin, c'est ça?
Non. Il avait Kiko Cassia, le deuxième gardien. Heureusement que Navas n'était pas blessé, parce que sinon c'était catastrophique. Donc, il était blessé en début de saison, mais pas pour les matchs importants. Donc, Zidane aimerait bien garder les deux. Donc, je te parie, ce que tu veux que le prochain match, c'est Courtois qui va jouer. Parce que Zidane, voilà, il revient.
Donc là, Marcelo est totalement relancé.
Bah, Marcelo allait partir à la Juve, là, qu'il va rester.
Moi, j'entends bien. Marcelo était un super joueur, une carrière sublime et tout. Mais j'ai lu l'interview de lui hier, je sais plus où le mec dit, effectivement, tout son amour pour Zidane. Pour Zidane, je meurs sur le terrain. Moi, j'ai du mal avec ces propos-là. J'y peux rien, je trouve ça dingue. Non, mais bordel, t'es joueur de foot, t'as un contrat professionnel. Qu'un entraîneur soit meilleur qu'un autre, évidemment, je suis le premier à le dire. Mais toi, joueur de foot, quand tu signes dans un club et comme t'es le Real, mais peu importe l'entraîneur, soit le cul, merde.
C'est pas gênant.
Pourquoi c'est pas gênant?
Mais laisse-moi venir.
Donc
ma
le mec, il a un contrat, c'est pas gênant.
Il va te répondre, monsieur.
Mais comment vous pouvez dire que c'est pas gênant?
C'est pas gênant de
honore ton contrat.
Alors, c'est pas gênant de vouloir mourir à un moment donné sur un terrain pour un coach. Ce qui est gênant, c'est de ne pas faire
le boulot
minimum avec n'importe quel coach.
On est d'accord.
Oui, parce qu'à un moment donné, ce qui permet de dire je vais mourir pour un coach sur un terrain, c'est parce qu'il y a quelque chose en plus, il y a une relation, c'est un truc fusionnel.
Ça j'entends bien que le mec
qu'un entraîneur puisse
qu'il
ait arrêté de jouer avec l'autre entraîneur.
Qu'un entraîneur puisse sublimer un joueur, lui trouver le bon positionnement, faire en sorte qu'il s'épanouisse. Mais OK, mais que le mec dise qu'il change du tout au tout parce que l'entraîneur, ça c'est pas normal,
la relation n'est pas la même qu'avec Solari.
On va voir de quelle façon Marcelo va faire la saison.
Un mot sur l'Atlético quand même.
Si tout le monde fait ça, c'est vrai que t'as plus d'équipe.
Évidemment, c'est
un mot sur l'Atlético,
c'est pas professionnel.
Il y a des problèmes au sein du club à l'entraînement. Cette semaine, Stéphane Savic, le défenseur, en est presque venu aux mains avec Ortega, le préparateur physique. Il aurait reproché un entraînement mais horrible, terrible. À Turin, la veille du match. C'est-à-dire qu'il a fait une séance comme si on était au mois de juillet en pleine préparation physique. Et les mecs étaient crevés. Et certaines voix au sein du vestiaire commencent à s'élever contre les méthodes de Simeone.
Veille de match?
Ouais, veille de match, ils ont un truc, mais hyper dur. C'est donc, ça a filtré.
Ouais, c'est particulier.
C'est particulier. Et donc, les méthodes ultra dures de ce préparateur physique, appuyé par Simeone, d'après ce qu'on me raconte, ont même créé des dissensions entre Simeone et son adjoint Germán Hermoso Burgos. Parce que c'est trop. C'est-à-dire que cette philosophie, elle a fonctionné à un moment, mais je pense que une année c'est bien, deux années, trois, quatre, cinq ans, à un moment, t'as des joueurs qui n'en peuvent plus et qui aimeraient un peu plus de plaisir, un peu plus de ballon et un peu moins de physique.
Surtout avant un match de cette importance-là, tu fais du jus, t'en prends pas normalement. Ouais. C'est des séances qui sont basées uniquement sur de la vitesse, sur du l'explosivité et pas sur quelque chose qui te rentre dedans. Quoi.
Et là,
c'est horrible pour un joueur. T'arrives le lendemain, tu sais que tu vas pas être dans une forme optimale. Quoi. C'est horrible.
Parce que le bénéfice d'une séance comme ça arrive une semaine après.
Aucun intérêt pour le lendemain.
Et donc, on commence à s'interroger en Espagne sur le joueur, sur l'entraîneur le mieux payé au monde, le double de Zidane. Il gagne 24 millions d'euros net par an, Simeone. Et on se demande si sa méthode.
T'es sûr de ça?
Ah oui,
il tombe pas.
Ah, son dernier contrat, 24 millions d'euros net. Oui, bien sûr.
Par an.
Net après impôt. C'est-à-dire que ça coûte 50 millions à l'Atlético tous les ans. Donc, le Simeone aujourd'hui.
Il peut faire quelques points.
Moi, il y a quelques années, j'avais déjà des joueurs, dont un joueur qui est plus à l'Atlético, qui expliquait un peu que le corset de Simeone qui fait qu'il y avait des joueurs qui pouvaient pas donner tout leur talent à cause de cette ultra rigueur défensive.
Il tombe pas un peu trop dans sa propre caricature un petit peu.
Il y a peut-être de ça quoi. Et là ils ont tout perdu quoi en une semaine quoi. Comme le Real l'autre jour ils ont perdu tout en une semaine.
Ah, là c'est l'Atlético. C'est là où tu reprends tout dans la.
Et là tu reprends et il y a quand même commence à y avoir des dissensions au sein du vestiaire sur les méthodes. Et je vous dis, il y a même des dissensions au sein du staff technique sur la préparation physique.
Bon. Dans quelques instants, Simone Rovira, Julien Laurence, bien sûr, Fred reste avec nous puisqu'on n'a pas souvent sous la main, donc
profitez-en, c'est bon, vous pouvez toucher tout ça.
Exactement. Oui. Venez nous voir si vous voulez toucher Fred. Tout à l'heure, il y aura une séance.
Surtout si tu es dans.
Tu sais, c'est comment elle s'appelle cette indienne qui fait des hugs. Tu sais, tous les gens qui viennent la voir du monde entier là, elle fait les prendre dans les bras puis après tu te sens bien.
Non, on connaît pas. Oui.
C'est pas ça à Madrid, toi, Fred?
Non.
Une indienne.
c'est pas une indienne.
Pocahontas.
Allez, à tout de suite dans l'after pour la suite des drôles de l'âme, bien sûr.
RMC, jusqu'à minuit, c'est l'after foot. Super Brébois.
On est là, Daniel Riolo, Pierre Ducrot, Fred Hermel, Julien Laurence et Simone Rovira. D'ailleurs, on a un jingle Rovira, mais alors là, de très très haut niveau. Parce que je sais pas ce qui lui est arrivé, Simone, il a pété un plomb l'autre soir avec Jean-Christophe Drouet. Enfin bref, jingle Rovira.
Fonda tutte le porte, alzente sulla schiena, in maglia bianconera, è un sogno che si avvera, Cristiano da Madero.
C'est bon ça.
Ah ouais.
C'est bon.
Ah ouais.
Simone, qu'est-ce qui s'est passé?
Bah, c'était la chanson qui cartonne sur les réseaux sociaux en Italie. Et je la présentais au public français.
Mais t'étais dans quel resto?
C'était les restos où Cristiano a célébré son triplé après la victoire face à l'Atlético chez Catullo à Turin.
Là où il y a eu la standing ovation quand il est rentré dans le resto?
Voilà, mais pour moi, il n'y a pas eu de standing ovation.
À toi, quand Simone,
on a vu que c'était un montage, il n'est pas dans le resto là.
Ah, je pensais qu'il était allé là-bas.
Mais on ne dit rien. C'est la magie.
Ah bah je ne savais pas.
Tu déconnes ou pas?
Non, je te promets, je ne savais pas.
Bon, ça se voit.
Je pensais qu'il était allé à Turin pour faire ça.
Alors, tu voulais nous parler de Dybala dans ton avis tranché ce soir. On t'écoute.
Oui, je veux parler de Dybala parce que quand même, c'était les joueurs qui avaient beaucoup à jouer, avait beaucoup à montrer ce week-end. La Juve a fait un énorme turnover face au Genoa. Pas de Cristiano, pas de Matuidi, pas de Chiellini, pas de Chesney. Donc c'était un peu une occasion pour les autres, ceux qui n'ont pas brillé face à l'Atlético. Et Dybala, encore une fois, a raté ce match, n'a pas été capable d'être déterminant. La Juve a perdu, tristement, 2-0. Il n'y avait aucun enjeu, aucun engagement. S'est fait marcher dessus par les Genois, qui c'est une équipe qui joue plutôt bien. L'équipe de Cesare Prandelli, mais qui s'ébatte
un
peu plus
but de Pandev, pour les maintiennes. On est d'accord.
Avec un but de Pandev, un but d'Estouraro, c'était 10 mois.
Il a 45 ans ou quoi?
Pas loin. 33, je pense, un chose comme ça.
Je voyais beaucoup plus vieux Pandev.
34 peut-être, mais non, c'est pas si vieux. D'accord. Et un but de Pandev, un but d'Estouraro. Estouraro, c'était 10 mois qu'il jouait plus au football.
35.
Son dernier but, ouais. C'était le dernier but d'Estouraro, c'était en 2016 face au Bayern en Ligue des Champions. Imaginez donc comment la Juve s'est présentée sur ce match. Mais certains joueurs devaient faire quelque chose en plus. Et Dybala devait faire beaucoup plus parce qu'il doit récupérer sa position de titulaire ou quelque chose comme ça. Si c'est pas les titulaires, ça doit être un joueur important dans les rotations, parce que quand Cristiano n'est pas là, il faut quand même qu'il prend sa place. Parce que c'est Dybala, c'est pas n'importe quel joueur, c'était la star de la Juve jusqu'à la saison dernière. Donc si Dybala n'est pas capable d'être une solution, pour moi, il devient un problème. Et quand il y a un problème, il faut les résoudre. Quelle est la solution? Ben, Cristiano va pas partir, donc il va rester. Donc, s'il y a un qui doit partir en fin de saison, ça va être Dybala. Parce que s'il n'est pas utile à la Juve, il devient plus qu'un problème, peut-être il devient aussi dangereux. Parce que dans les matchs importants, si Cristiano n'est pas là et si Dybala n'est pas capable de prendre la relève, la Juve va en danger.
Pour le club qui va le prendre, c'est une bonne affaire, c'est un super joueur.
Il a, hein.
Il a peut-être souffert de l'arrivée de Cristiano Ronaldo, mais avant que Cristiano Ronaldo soit là, Dybala, dans l'année où ils vont en finale de Ligue des Champions, c'est l'homme fort du club.
Ouais, dis-moi, Simone,
est-ce que
sa femme et son agent aussi, toujours, non? Il n'y a pas une histoire avec sa femme aussi, non?
Non, c'est Icardi.
Non, lui, Icardi, c'est Icardi. Mais il n'y a pas une histoire non plus d'agent.
Dybala, quand sa femme et l'agent, ça tourne mal.
Comment, pardon?
Dybala, c'est son frère, l'agent.
C'est son frère. Ah. Parce que je sais qu'il va intéresser le Real à un moment ou à un autre. Et là, comme tout est open pour le Real la saison prochaine, faut suivre ça de près, quoi.
Non, mais Dybala, les problèmes, c'est est-ce qu'il souffre
dans une grande place Vendôme,
Envoie un texto à Zidane, Dybala est dispo.
Non, d'après Simone.
Faut appeler son frère.
Mais passe par son frère. La femme, c'est la femme d'Icardi, c'est pas la même.
Non, mais je sais, mais il y avait une histoire d'agent aussi avec Dybala, quoi. Je sais.
Dybala, il a quitté son agent pour aller avec son frère.
Raconte-nous cette histoire de supporters là ce week-end qui ont demandé à être remboursés parce que Ronaldo jouait pas.
Bah alors oui, c'est les Corriere della Sera qui a donné l'information. On ne sait pas si c'est des supporters du Genoa ou de la Juve. L'information qui est sortie sur les quotidiens italiens, c'est que dans les clubs, dans la siège du club du Genoa, le samedi après que Massimiliano Allegri a annoncé Cristiano Ronaldo n'est pas dans les groupes, il va pas faire les déplacements. Les clubs ont reçu des appels téléphoniques, plusieurs, qui demandaient est-ce qu'on peut être remboursé pour les billets parce que Cristiano n'est pas là. Donc, si on peut restituer les tickets, on est content parce que on voit pas Cristiano, donc on veut pas aller au stade.
C'est beau.
C'est la Cristiano-folie.
Moi, je trouve ça bien. Hein. Footix, si. Mais je veux dire, mais c'est pas le fait en lui-même, mais ce que ça représente. C'est-à-dire l'impact de Cristiano dans
ça, c'est
la
pas le footix, c'est les spectateurs. Ouais, qui n'est pas supporter, mais qui est spectateur.
Non, mais et le spectateur, il a pas assez de spectacle quand même avec ce qu'il y avait sur le terrain, même sans Ronaldo.
Mais t'as envie de voir Ronaldo quand même, c'est la nouveauté.
Et t'as envie de le voir, mais il t'en reste plein à voir quand même.
Ah ouais, mais enfin, la nouveauté, c'est Cristiano. Si tu l'as jamais vu.
Tu sais quoi, achète-moi un DVD de Cristiano alors.
Non, mais tu peux le voir pas loin. Regardez RMC Sport 1 et sur RMC Sport 1, t'as tous les buts de Cristiano en Ligue des Champions. Je peux dire que ça dure longtemps.
Moi, je trouve ça un peu triste, moi.
Non, mais.
Alors ça révèle quelque chose.
Ça révèle comme un phénomène.
Mais c'est triste.
Moi, je me souviens quand du temps des Galactiques, quand le Real chaque année achetait un Galactique, donc Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham, etc. Le premier tour de coupe pour les équipes de première division qui jouent les coupes européennes, c'est en 16e de finale et c'est en novembre en général, quoi. Et le match c'est toujours chez un 3e division à l'extérieur. Donc il y avait des voyages improbables dans les petits coins, etc. Mais le Real systématiquement emmenait pour ce match le nouveau Galactique qui avait été acheté parce qu'ils estimaient qu'il fallait montrer que les gens aussi en troisième division aient accès à la star, quoi. Donc, chacun était passé par là. Ouais, alors normalement les stars ne jouent pas.
Bien t'as un côté, tenez-vous les gueux, vous avez aussi le droit de voir la nouvelle star.
Il y a un
star.
Peu de ça, mais il y a un autre côté, tu partages.
Un peu, peu condescendant.
Non, mais t'imagines, t'es à Caceres ou t'es, je sais pas où. Tu vois jamais de grand football et là t'as une grande star où là
que toi quand t'achètes un nouveau costume ou des nouvelles pompes, si tu vas à une soirée de village, tu les mets pas, t'attends la grosse fête madrilène pour les mettre.
J'ai pas compris là. j'essaie de voir le parallélisme mais j'ai pas
vas-y,
c'était une métaphore.
C'était clair
avec la paire de chaussures.
C'est
un
nouveau
costume. Un mot sur le derby milanais.
Toi, est-ce que tu les mets pour une fête de village? T'as un nouveau costume, puis
je vais
t'as une fête de village.
Ça fait longtemps que j'ai pas été une fête de village.
Non, mais imagine, tu peux imaginer, bordel.
Mais Pierre ne va pas faire de village,
tu
as dit.
Non, tu vas avoir une soirée un peu plus mondaine pour mettre ton nouveau costume.
Je pense que tu te mets à l'aise plutôt, quoi. Tu vas avoir l'air d'un idiot si tu mets là.
Eh ben non, si tu veux respecter tout le monde.
Mais non,
mets ton beau costume aussi à la fête de village.
Moi, je penserais que les gens vont. Vont penser que je veux montrer.
Ouais, après, faut faire attention à pas être overdress.
Ouais, voilà.
Le derby milanais, Simone.
Oui, alors, déjà, avant le derby, j'ai fait un petit aveu de
qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui parce que c'est quelque chose que j'adore. J'étais à Coverciano pour les stages de l'Italie et j'ai vu le premier entraînement avec Roberto Mancini, qui est le sélectionneur. Et j'ai vu Roberto Mancini entraîner les Zenit parce que j'avais fait il y a 2 ans son stage en Autriche. J'avais eu Mancini à l'Inter, j'ai vu Mancini à l'Italie. Et c'est beau de voir Mancini qui entraîne ses joueurs parce qu'il est toujours sur le terrain. Il joue avec eux. Il adore toucher les ballons. Il a encore une classe magnifique. Et il y a certains entraîneurs qui gueulent beaucoup, qui donnent des ordres. Et lui, il joue avec ses coéquipiers, ses joueurs. Et c'est quelque chose qui toujours, ça me plaît beaucoup. Donc voilà, je voulais dire ça parce que j'aime bien Mancini, j'aime bien l'Italie et les voir entraîner, c'est un plaisir.
Ah, on sent de l'émotion là.
Ouais, voilà, merci, t'as compris. Et à part ça, le derby a montré que l'Inter en classe supérieure au Milan, que Milan a des gros problèmes de personnalité, que finalement les fantômes, Icardi est dans les placards parce que l'homme fort de cet Inter dans ce derby était Lautaro Martinez, donc le jeune argentin, c'est lui qui était recruté pour être l'avenir de l'Inter après Icardi, et il a dit à ses supporters, si vous voulez, l'avenir commence maintenant, parce qu'un joueur qui fait un passe décisive, il marque un penalty difficile et fait un travail énorme face au défenseur du Milan, quand même à 22 ans ça mérite tous les respects d'un qui mérite un attaquant comme ça, qui fait un travail comme ça dans un match si important, quand c'est lui qui devrait être titulaire, et comme j'ai dit souvent devant la télé chez lui, en disant qu'il a trop mal pour jouer. Par contre, Milan qui arrivait favori avec 5 victoires consécutives, qui semblait devoir marcher sur l'Inter, écraser l'Inter, là peut-être l'enthousiasme a joué un très mauvais coup à certains joueurs. Je pense au Brésilien Paqueta qui a fait très bien depuis le début de cette année, depuis qu'il est arrivé, mais on les sent un peu moins bien. Je pense à Kessi et Bilia qui se sont pris un peu sur les bancs de touche pour après la sortie de l'Ivoirien. Je pense aussi à Gattuso qui s'est fait un peu jouer par Spalletti avec une tactique très intelligente, avec Vecino qui jouait derrière les milieux comme un numéro 10 avec une position un peu surprise. Donc ça montre encore plus que l'Inter avait vraiment un énorme potentiel cette année, mais l'a pas exploité. Dommage, maintenant arriver en Ligue des Champions, c'est le minimum. Pour Milan, quand même, il faut fêter cette défaite de la Roma qui est tombée toute seule
qui est
face
au fond
à la,
du trou, la Roma.
Et au fond du trou, et ce qui s'est passé aujourd'hui pour moi c'est encore plus grave parce qu'on sait très bien que Monchi est revenu à Séville, il s'est présenté il y a quelques jours avoir quitté Roma, il est revenu à Séville en disant à Roma je pouvais pas travailler parce que moi et les présidents on avait des visions différentes, et aujourd'hui le président il a pris la parole après la conférence de presse de Monchi pour dire je sais pas qu'est-ce que voulait Monchi, je lui donnais les pleins de pouvoir, si la situation est ça et si la catastrophe est arrivée cette saison c'est totalement de sa faute, si ma vision était différente de la sienne, on a agi comme il voulait, donc c'est sa faute. Donc à Rome, même le départ de Monchi n'a rien arrangé parce qu'on continue à s'éjeter, on peut dire, les assiettes l'un contre l'autre, et ça marche pas, et c'est triste pour la fin de saison de cette équipe.
On enchaîne avec le jingle, Julien Laurence.
It's an amazing game, it goes 1-0 for France, 1-1 Messi scores, and Kylian Mbappé, out of nowhere, scores the winner for France.
Ouais, c'était la Coupe du Monde l'été dernier, évidemment. Et Julien, lui, il y a un truc qui fait parler en Angleterre, c'est le possible quadruplé de City.
Ouais, c'est ça Gilbert, effectivement, hein, c'est le grand débat du moment après la victoire de City en Coupe d'Angleterre samedi à Swansea. Alors ils ont eu du mal hein pour gagner 3-2 au Pays de Galles. Ils s'en sont sortis notamment grâce au fait qu'il y avait pas le VAR dans ce match-là, alors que le VAR c'est un peu bizarre ce qui se passe cette saison en Coupe d'Angleterre c'est que seulement les clubs de Premier League qui jouent à domicile dans les tours de Coupe d'Angleterre ont la VAR dans leur match. Donc par exemple, non mais c'est très bizarre. Donc le samedi soir, le match de Wolverhampton Manchester United à Wolverhampton, donc un club de Premier League, t'avais la VAR. Le samedi après-midi à Swansea, qui est un club de Championship, t'avais pas la VAR. Et il s'avère que Sterling Sterling a obtenu un penalty qui aurait pas dû être un penalty, et ensuite Agüero a marqué le but décisif pour City sur un hors-jeu qui était flagrant, enfin facilement que la VAR n'aurait pas raté, et donc il y avait pas la VAR. Même Pep Guardiola s'en est étonné en disant que c'était pas normal. À Swansea bien sûr, eux encore pire. Mais après cette victoire, et donc maintenant City est qualifié pour les demi-finales où il ne restera donc que Brighton, Wolverhampton et un quatrième club que j'ai déjà oublié. En gros, pour te dire que la voie royale pour City en Coupe d'Angleterre, ils ont déjà gagné la Coupe de la Ligue, il reste donc le championnat et la Ligue des Champions. Le championnat, les bookmakers ici en Angleterre en font les grands favoris, même si Liverpool, et on en reparlera tout à l'heure, est repassé devant après leur victoire à Fulham, mais tout le monde considère que...
Il reste quoi pour l'un et l'autre comme gros virage là, sur les dernières journées?
Il reste donc Tottenham, c'est le seul gros que les deux vont encore avoir à jouer, chacun à domicile.
Ça peut Liverpool être collé jusqu'au bout alors. Hein.
Ouais, et Liverpool à Chelsea aussi.
Qu'est-ce qui fait
et Manchester
pense, qu'est-ce qui fait Manchester City pardon à Manchester United. Côté de City chez toi.
Le fait que ils viennent d'engranger 11 victoires de suite toutes compétitions confondues, que la machine fonctionne au maximum, alors que Liverpool tu les sens quand même un petit peu fatigués, tu les sens et devoir arracher les résultats comme à Fulham par exemple dimanche où ils ont pas été bons, ils ont gagné mais ils ont pas été bons, et la méforme de Mo Salah par exemple qui est l'autre gros problème pour Klopp, parce que si Sadio Mané lui est en pleine forme, 11 buts lors de ses 11 derniers matchs. En revanche, le souci pour Salah, c'est que lui ne marque plus du tout et n'est même plus décisif. Alors, il avait été décisif en Ligue des Champions au Bayern avec cette passe décisive assez incroyable pour Mané, mais sur le match de Fulham, par exemple, il rate quasiment tout ce qu'il a tenté. Et ça, c'est inquiétant pour Liverpool. Il y a plus d'inquiétude, si tu veux, pour cette équipe de Liverpool que pour celle de City, qui fait que... En Angleterre, pour les gens, c'est City le grand favori. Il restera après donc la Ligue des Champions. S'ils arrivent à gagner le championnat, il restera la Ligue des Champions. C'est aussi bien sûr la compétition des quatre la plus difficile à remporter. Encore une fois, les bookmakers anglais ont fait City le favori juste devant le Barça de Fredo.
Bon après il y a toujours un truc, Julien, qui est
très tôt, hein.
et c'est pareil dans tous les pays, que ce soit chez toi en Espagne. Hein. Il y a une façon de voir le foot. Par le balcon de sa fenêtre, qui fait que on est toujours plus dithyrambique sur les équipes de son championnat. C'est comme quand après l'élimination du PSG par Manchester United, on a pu lire en Angleterre que Solskjaer avait trouvé une tactique formidable, ou que Manchester United avait fait un match extraordinaire. Je veux dire, si des journalistes anglais ont réellement dit ça, je sais pas quel match ils ont vu et de quelle façon ils ont vu les choses. Donc après, qu'en Espagne on dise le Barça est le grand favori, pourquoi pas, et c'est certainement vrai qu'ils le sont favoris.
Surtout,
et qu'en Angleterre,
après un tel récit.
Non mais en Angleterre, tu vois, la preuve de ce que je dis, c'est qu'en Angleterre, on dit City, c'est carrément quadruplé.
Ouais, mais après,
on a une tendance à valoriser les produits de son championnat, qui est un peu, qui est toujours un peu étonnant. Mais on le fait également en France.
Mais c'est parce que c'est
on le fait également en France aussi, puisque Lyon avait absolument toutes ses chances contre le Barça. Limite, certains pouvaient dire que Genesio valait Valverde, que Genesio. On a même dit que Genesio a écrasé Guardiola sur les matchs de poule. Bon, voilà, ce genre de truc. Je m'aperçois qu'on n'est pas que en France comme ça. Avoir une vision un peu objective européenne, c'est compliqué quand même.
Je pense que Julien va être d'accord avec moi. Il y a aussi l'idée Guardiola sextuplé. Avec le Barça, je pense qu'il y a ça aussi. Je pense que c'est la personnalité.
Bien sûr, moi je te dis pas qu'il va pas le faire.
Qui invite à rêver à un quadruplé. Je pense que ça vient de là aussi.
Oui, inviter à rêver, c'est une chose qui est, pourquoi pas. Je conçois qu'on puisse envisager que City fasse la totale.
Il a déjà fait 6 dans une saison.
Oui. C'est pas parce qu'un type a fait un jour qu'il peut le refaire.
Ouais, non, mais c'est sûr, même si lui, il est très mesuré dans son approche, parce que les Anglais commencent un peu à s'exciter, forcément, comme tu viens de le dire, Daniel, ce serait quand même un truc incroyable, hein. Bien sûr, Manchester United a fait le fameux triplé de 99 avec la finale de la Ligue des Champions au Camp Nou contre le Bayern et les deux buts dans le temps additionnel. Et après, ils avaient fait aussi le doublé Coupe Championnat. Mais si City arrivait à faire ce quadruplé incroyable en ajoutant la Coupe de la Ligue aux trois autres de United, par exemple, c'est vrai que ce serait incroyable. Et j'ai l'impression que Pep, qui lui sait très bien ce qu'il fait, hein, depuis le départ, et il est très mesuré dans tout ce qu'il dit à chaque fois qu'il fait une conférence de presse et qu'on lui pose la question, parce que elle revient tous les trois jours la question, et à chaque fois il dit non mais vous vous rendez pas compte, c'est quasiment impossible à faire un quadruplé pareil, et à chaque fois il est très mesuré. Et j'ai vu Agüero par exemple,
je trouve ça même con qu'on lui pose indéfiniment ces questions là quoi. Quel est l'intérêt?
Ouais, mais t'es un peu obligé.
En fait, l'analyse du foot, c'est devenu des
chiffres.
C'est devenu des chiffres et c'est devenu du pronostic, en fait.
Mais toujours.
Dis-moi l'intérêt. Dis-moi l'intérêt. Si tu vois, t'as deux conférences de presse par semaine, tu te retrouves face à Guardiola, lui dire, ce serait bien de faire le quadruplé, qu'est-ce que ça vous apporte de faire le... Mais putain, mais merde,
surtout
quoi.
Que t'as eu la réponse,
parle-nous de tes matchs, il y a autre chose à dire que d'envisager sans arrêt le fait que,
Excuse-moi, quelqu'un qui est qualifié pour les quarts de finale de Ligue des Champions, qui est bien parti en Champions League, qui gagne les coupes, etc., c'est normal qu'à un moment, quand on se rapproche l'échéance, on se dit ben tiens, ça c'est possible.
À tous les trois jours, tu lui demandes.
Une question de Pierre à Julien.
Non, il y avait juste que t'as.
Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils disent d'intéressant en fait?
Non,
à un moment quand tu poses une question, faut que t'envisages que la réponse elle soit intéressante.
Daniel,
moi le nombre de questions qui sont posées avec des réponses, tu peux les anticiper ou tu sais qu'il va pas y avoir de réponse tellement la question est conne, t'arrives pas à comprendre. Pardonne-moi.
Non, moi c'était un détail, mais tu parlais de Tottenham qui allait un peu arbitrer le seul match contre un gros. Il y a aussi le derby de Manchester à United en plus, non?
Oui, je l'avais rajouté tout à l'heure aussi, ouais.
Ah, donc pardon, pour, j'ai pas entendu, parce que
voilà, non, et pour Liverpool,
que ce
Tottenham
un match aussi un peu à part pour City, quoi.
Voilà. Ouais, Tottenham et Chelsea, et pour City, Tottenham et Manchester United.
Ah pardon, non, j'ai pas entendu.
Dans quelques instants, on est de retour avec vous les gars, et avec David Lorto. Simonet, merci beaucoup.
Oui, j'ai pas dit Simonet.
Non, mais ça a coupé, mais il est là. Salut Simonet, bon à plus. Oui. Ciao, bello.
Ciao,
buona notte.
Dans quelques instants, David Lorto nous rejoint les droits de l'âme jusqu'à minuit, bien sûr, à tout de suite.
RMC, l'afterfoot, Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, l'after est là, avec Pierre Ducroix, avec Daniel Riolo, avec les drôles de l'âme, Fred Hermel avec nous ce soir, physiquement, toujours aussi somptueux, plus Julien Laurence qui sera là bientôt, et David Lorto qui nous rejoint. Salut David.
Allô Fred, salut Gilbert, salut messieurs, salut à
David.
Tous.
Salut David.
David qui est parti en week-end à Rostock, et bien.
Non, je me suis réfugié dans les Alpes pour réfléchir au désastralement.
Ah, Garmisch-Partenkirchen.
Oui, pas loin, mais c'est pas tout à fait fini, Daniel.
Non, que ça, tu en suis, t'es fou, quoi.
Ah, pardon. Oh là là, pardon.
Avant de parler de Joachim Löw, faut que je vous rappelle que tous les jours, vous le savez, à 9h15 dans les Grandes Gueules et à 16h15 dans le Super Moscato Show, le jeu des 1000 euros RMC est là. Et ouais, c'est la nouveauté de mars 2019, le jeu des 1000 euros.
Comme il y avait le jeu des 1000 francs avant, quoi.
Ouais, mais là c'est mieux, c'est 1000 euros, c'est un peu plus.
C'est beaucoup plus
important.
À l'époque, 1000 francs c'était bien.
Sauf qu'à l'époque, 1000 francs c'était ça.
Eh oui.
Là, on a franchi un palier, tu vois.
C'était un peu il y a longtemps.
On a 1000 niveaux très haut.
Je suis beau, attends, il faut que je fasse une photo là parce que.
1000 euros.
Je suis en plein dans l'écran là.
Inscrivez-vous toute la journée en envoyant RMC par SMS au 732-16. Pour gagner les 1000 euros, il faut s'inscrire. Hein. Vous envoyez RMC par SMS au 732-16. Alors que Fred va se prendre en photo là. Effectivement. Quel playboy. Jingle David Lorto.
But refusé à la toute fin du match, mais donc qui n'a pas été accepté puisqu'il a été refusé. Vous me suivez?
Fred, dis-moi, Gilbert, avant qu'on commence sur le sélectionneur, est-ce que Fred rivalise ce soir avec la tenue de Leroy Sané qui est arrivé au rassemblement de l'équipe d'Allemagne avec un vêtement de 25 000 euros de valeur?
Non, il n'en est pas là quand même. Ah ouais, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il avait?
Ben c'est une espèce de manteau. Je vous invite à aller voir. Je vais poster la photo si vous voulez sur Twitter dans la foulée.
Ça m'intéresse vraiment.
Un espèce de manteau avec des dessins un peu comme ça, très surprenant. Et...
Ouais, mais quelle marque?
Ça c'est son manteau de.
Ouais, il a 12 ans. Il m'a coûté cher, mais pas 25 000.
T'as pas des infos sur la marque et tout?
Non, je me suis pas renseigné plus que ça. C'est simplement parce que vous dites beaucoup de choses sur l'élégance de Fred ce soir. Ça m'a fait penser à ça, quoi. Mais on va renseigner nos auditeurs.
Alors Joachim Löw, son histoire de virer les mecs du Bayern, là, ça fait encore du bruit. Hein.
Oh oui, c'est un tremblement de terre en Allemagne. L'avis tranché que je voulais vous proposer ce soir, et ça va plaire à Daniel parce que c'est un coup de poker énorme, à tel point que le kicker du jour a titré all-in pour Joachim Löw.
Oui, alors là, mon Dieu, mes deux dernières parties de ce week-end, j'ai pris deux raclées tellement énormes que je parle plus de poker.
Bon, ben excuse-moi, alors je suis hors sujet.
Non, là, je suis vraiment pas bien en ce moment. Là. J'ai pris deux tôles monumentales.
La vie tranchée, comme quoi on peut se tromper, hein, même en envoyant tout son tapis. La vie tranchée du soir, c'est le sélectionneur a raison, le changement c'est maintenant, et je l'invite, moi, à pousser le raisonnement au maximum. Vous savez qu'il a annoncé, donc il y a quelques jours, ça continue de discuter en Allemagne, la mise hors course de Boateng 30 ans, Hummels 30 ans, et Müller, 29 ans, de l'équipe d'Allemagne, en disant, il a tenu une conférence de presse à Francfort à ce sujet, dans la foulée, pour s'expliquer, en disant, nous avons réfléchi longuement, il a fallu d'ailleurs 6 mois hein, depuis le Mondial, nous avons réfléchi longuement avec la Ligue des Nations, avec la Coupe du Monde, et nous avons estimé désormais qu'il fallait faire la place aux jeunes, et qu'il fallait reconstruire une équipe. Le sélectionneur s'est fait arracher des dents, je crois, là, ces dernières heures, il a été remplacé par Birov, le directeur sportif de la Mannschaft, auprès des journalistes, et Birov en a remis une couche derrière en disant on veut repartir à zéro, impulser un nouveau départ pour cette équipe. Alors moi je les invite, ces messieurs-là, à pousser le raisonnement au maximum, parce que les 23 qui ont été appelés là pour le match contre la Serbie mercredi, puis bien plus intéressant contre les Pays-Bas aux Pays-Bas dimanche, il y a encore quelques anciens qui restent. Il y a Manuel Neuer, 32 ans, dans les buts. Il y a Toni Kroos. Et ça, je serais curieux d'avoir l'avis de Fred à ce sujet. Et Gundogan. Alors, Manuel Neuer actuellement n'est pas dans le coup. Il fait une bombe au moins à chaque match.
Alors que Ter Stegen est magnifique.
Ben voilà. Donc ça serait peut-être l'occasion de dire, allez, je mets en concurrence, ou même je donne sa chance, notamment dans le match amical contre les Serbes mercredi, à Ter Stegen. Ce serait quand même une belle récompense, me semble-t-il. Et puis, pour ce qui est de Toni Kroos, alors, on dit en Allemagne qu'il est intouchable, qu'il est indéboulonnable, que c'est le patron de cette équipe. C'est peut-être le moment aussi, à défaut de le mettre dehors, au moins de le faire souffler et de pousser le raisonnement au maximum, de partir avec uniquement des jeunes. Parmi les jeunes, il y a quand même des joueurs qui maintenant ont de l'expérience, Kimmich, par exemple, pour n'en citer qu'un, et d'autres qui ont envie de prendre des responsabilités. Donc moi, j'invite le sélectionneur non pas à rester au milieu du guet, mais à remplacer l'intégralité du groupe, rajeunir l'intégralité du groupe, prendre des risques et partir pour ce match amical, puis pour les qualifications pour l'Euro, avec un groupe complètement rajeuni. On pourrait citer un 11 titulaire qui aurait de la gueule. Prenons simplement les trois de devant. On peut tout à fait imaginer Leroy Sané à gauche, Serge Gnabry à droite, Timo Werner, même si vous moquez de moi à ce sujet, ces trois-là, ça irait très bien en attaque. Et allons-y, envoyons les jeunes.
D'accord les gars? Ou pas.
Ouais, faut toujours être prudent avec
moi,
ça quand même aussi.
J'étais un peu dans l'enquête sur la tenue de Leroy Sané, donc je vous fais confiance.
Hein. Non, mais un garçon comme
Leroy, on peut pas faire confiance à David Dorto sur le montant des fringues de Leroy Sané. Mais non, mon vieux.
25 000.
Mais non, t'as pas compris. Il avait une veste en fourrure Balenciaga à 4 500.
Ah.
Ça, il faut ajouter le sac Vuitton à 18 000.
Ah bon, ben voilà.
Et les pompes qu'il avait, c'était une paire de pompes des Jordan, mais Nike, mais un modèle, machin, à 1600
balles. Bon, tout
balles.
Est dans le sac.
Et ouais. le tout faisait un peu moins de 25 000.
Bah, c'est ça.
Oui, mais pas la veste seulement.
Oui, non, la veste, elle était à 4500. J'ai vu passer ça juste avant l'after.
Très clair, mais bon.
Ouais, quand même.
Bah non, mais si tu fais ça sur tous les footeux qui se pointent dans leur sélection, à mon avis, t'as l'argent à plus de 25 000, hein.
Bah ouais. Bah déjà quand t'as la valise,
c'est pour dire aussi que la presse people entre guillemets.
Non mais pour en revenir à ce que tu disais, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, quoi qu'il en soit, au-delà même de la sélection, c'est il y a une sorte de dans le foot allemand globalement et évidemment à travers le Bayern qui est le club phare. L'idée qu'il faut changer beaucoup de choses, que ça va plus, que parce que là le foot allemand il a pris, alors que tout le monde l'a encensé pendant des années, il a pris la grosse claque de la Coupe du Monde, derrière le club phare qui n'arrive pas à se faire une place dans le dernier carré de la Coupe d'Europe et tout.
Ouais, ça
c'est un peu dur en ce moment pour le foot allemand, quoi.
Ouais, après, attention, excuse-moi Fred.
Non, simplement ce que je voulais dire, parce que David, rappelle-toi, après les grands succès de la sélection espagnole, l'Allemagne a beaucoup regardé ce qui se faisait en Espagne.
Bien sûr.
Que l'Allemagne a bien regardé où l'Espagne n'a pas été capable de faire le nettoyage après le mondial brésilien. Et depuis, on est toujours dans cette crise. Donc finalement, ils ont regardé pour gagner et ils ont regardé aussi pour ne pas continuer à perdre comme l'Espagne. Donc je trouve que cette
ce
changement et me paraît très intéressant.
Non, mais le changement est intéressant, mais il y a aussi le Bayern où on parle beaucoup de changement. Et il se trouve que ça concerne les questions.
Attention de pas les trouver quand même. Un garçon comme Gnabry, Gnabry là, c'est un bon joueur qui en devenir. Quand on voit le match qu'il fait contre Liverpool où il est transparent.
Dis, ça va pas aller trop vite.
Attention de pas aller trop vite.
Ouais,
voilà, c'est un autre niveau encore.
Dans sa conf de presse, le sélectionneur a dit, je vais aller vite, hein, Gilbert, parce que je surveille l'heure moi aussi, mais c'est très important. Le sélectionneur a dit dans sa conf de presse, il faut que dans les classes d'âge 8, 9, 10 ans, donc des très jeunes joueurs, on recherche particulièrement des jeunes footballeurs qui sont capables de réfléchir très vite, prendre des décisions très vite dans le jeu offensif, capables de d'être très forts en 1 contre 1. Donc il y a 8, déjà 8, une 9, réflexion profonde qui est engagée,
là,
quoi.
Il a fumé là, c'est pas
8, 9, 10 ans, faut aussi que les gamins s'amusent à cet âge-là, non, surtout.
N'importe quoi là.
Bah c'est l'âge qu'il a donné, 8, 9, 10 ans. Déjà qu'on commence à...
C'est pas comme la tenue, c'était pas 18, 19 ans?
Non. non, mais il y a une réflexion en profondeur sur tout le foot.
En même temps, je l'ai vu, la veste en fourrure, elle tirait très bien, toi, David.
Ça, tu veux dire que ça m'épaissirait un peu?
Ah, la veste fourrure de Laurent Sané, vous l'avez pas vu?
Non, j'ai pas vu.
Ah, bah, allez-y, là.
On va publier une photo sur
Laurent Sané.
J'ai
tapé manteau Laurent Sané, ça m'a sorti des trucs sur les porte-manteaux de Laurent Merlin, moi.
Alors, elle est blanche, elle est couleur blanche, un peu crème. Effectivement, elle fait un peu manteau années 70. Elle est très, très épaisse, un peu gonflée, avec des inscriptions dessus. Elle envoie
l'air. Un peu à l'air.
Elle envoie la portée.
Un peu à l'air. Elle est chez les femmes, non?
Hein?
Il s'est pas trompé de rayon?
Écoute.
C'est une doudoune ou un manteau
C'est fini pour ce soir, Fred.
C'est une veste.
À très
c'est
un grand plaisir de vous voir.
C'est une veste.
Les gars, Julien, David, merci à tous. Et demain, la fleur sera là à 22h. Bonsoir Pierre et Daniel. Demain, 22h, bien sûr, avec notamment une thématique qu'on n'a jamais abordée dans la fleur. Les paris. C'est une folie furieuse, les paris. Et demain, on vous amène un gars qui va vous expliquer comment il parie, et il parie comme personne ne parie. Et
tu sais que tous les ans, il y a des joueurs qui se font avoir parce qu'ils n'ont pas le droit de parier et qui parient.
Ah bah tiens, on va en parler aussi demain de ça, tiens.
Ouais.
Les paris dans le foot, gros phénomène, ce sera demain soir dans l'after. Allez, bonne nuit à tous et à demain.
RMC, l'after foot.